Vous êtes sur RTL.
30 ans.
RTL Midi,
le 12-30,
avec Christophe Paco.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi en ce mercredi 30 décembre. On avance à pas compter vers la fin de l'année et vers de nouvelles mesures envisagées pour éviter un confinement que ne souhaite pour l'heure le gouvernement. Une seule mesure d'importance hier annoncée par le ministre de la Santé, l'horaire du couvre-feu avancé à 18h au lieu des 20h actuellement, et ce dans 20 départements fortement impactés par l'épidémie de coronavirus, essentiellement dans l'est de la France. 2 heures de plus pour endiguer cette vague de contamination qui continue de sévir. À quoi ça sert? Comment s'organiser dès ce week-end et avant la rentrée des classes de lundi? On va essayer de répondre avec vous à toutes ces questions dès le début de ce journal et avec nos invités, notamment le maire de Fontainebleau qui sera avec nous en 3 minutes, Frédéric Valtoux. Il est également président de la Fédération Hospitalière de France. Et comme 200 autres élus, Frédéric Valtoux vient de signer un manifeste appelant à se faire vacciner au plus vite. La météo, bonjour à vous Claire Delorme.
Bonjour Christophe.
En cet avant-dernier jour de l'année, ça reste toujours aussi froid?
En effet, donc l'hiver s'est bien installé, il ne compte pas nous quitter de sitôt. Les températures ne vont pas dépasser les 8 degrés dans la moitié nord et tout juste les 12 degrés dans la moitié sud. Mais j'attire surtout votre attention au risque d'avalanche sur le massif central, les Vosges ainsi que les Pyrénées. Même s'il neige beaucoup moins, le manteau neigeux reste encore très instable et une situation également à surveiller dans le sud-ouest où 4 départements sont maintenus en vigilance orange en raison d'un risque de crue, même si entre-temps les pluies ont nettement faibli. Mais sinon, globalement, le ciel reste très nuageux sur l'est du pays. C'est beaucoup plus calme, il faudra bien profiter de cette petite accalmie car d'ici la fin de journée, une nouvelle perturbation arrivera par le nord-ouest.
On parlera des prévisions pour ce grand week-end de Saint-Sylvestre, évidemment, avec vous, Claire Delorme. D'ici la fin de ce journal. Question du jour sur RTL.fr. Couvre-feu locaux, jugez-vous utiles ces mesures? Vous dites oui à combien de pourcents? On attend vos premiers chiffres, évidemment, dans quelques instants, vous en aurez d'ici 13h. Venez en parler avec nous, en tout cas, de ce confinement qui n'a pas le même nom aujourd'hui et qui n'aura peut-être pas lieu selon le gouvernement. On en va attendre les chiffres, évidemment, de Noël et de Nouvel An. Couvre-feu locaux, donc jugez-vous ces mesures utiles, vous aussi. 32-10, on en parle ensemble jusqu'à 13h30. 3-2-1-0, c'est le standard RTL.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
C'est la seule annonce du Conseil de défense sanitaire qui s'est tenu hier par visioconférence. L'allongement de la durée du couvre-feu dans 20 départements. 2 heures supplémentaires entre 18 et 20 heures, essentiellement dans le Grand Est. Il va falloir, Dimitri Ramelot, s'organiser au plus vite. Et ça commence, parce que ça commence, oui, samedi. Et la rentrée scolaire est juste derrière, lundi. Vous avez rencontré ce matin la famille Marchal à Metz, en Moselle.
Oui, double crispation hier soir pour ce couple de trentenaires dans l'hypothèse d'un couvre-feu dès 18h annoncé par le ministre de la Santé. Et pour Alexis, tout d'abord, cadre dans le privé qui se charge chaque soir de récupérer son fils Hugo, 5 ans, chez la nourrice.
Concrètement, le petit, j'allais le chercher à 18h30. Et moi, je suis quitté à 18h. Donc là, ça raccourcit d'une heure. Ça veut dire que je vais devoir aller chercher le petit à 17h30 au plus tard. Pour être à la maison à 18h, ça veut dire que je vais devoir rattraper des heures je ne sais pas quand. Donc voilà, c'est l'angoisse. C'est des heures de pointe qu'on n'a pas d'habitude.
Et la maman Marine, employée dans la grande distribution, angoisse devant toutes les incertitudes provoquées par ce nouveau rythme de vie et pour celui de son autre fils, Mathéo, 12 ans.
Il joue au foot 3 fois par semaine, de 18h à 20h. Et là, j'avoue que si on doit être à la maison à 18h, ça va être très compliqué parce que il a besoin d'y aller. Donc est-ce que le foot va être arrêté? Est-ce qu'on va devoir suspendre les activités? Enfin, je sais pas. On est dans le flou total.
Et le couple attend maintenant de savoir s'il y aura des dérogations et si oui, lesquelles, car pour eux, pas de problème à rester le plus possible à la maison, mais sans voir leur quotidien totalement bridé.
Dimitri Ramelot à Metz, en Moselle pour RTL. Un couvre-feu plus long, 2 heures de plus, ou de moins, ça dépend de quel côté on se place. En tout cas, 2 heures de plus surtout pour lutter contre la pandémie. Alors concrètement, la question que l'on peut se poser aujourd'hui. Agathe Landé, bonjour.
Bonjour.
Côté sanitaire, à quoi ça sert?
Eh bien, ça permet surtout de limiter nos interactions sociales et on sait bien que c'est dans la sphère privée qu'on se contamine le plus. Faire débuter encore plus tôt le couvre-feu, là où l'épidémie progresse, c'est une bonne option, estime Bruno Megarman. C'est le chef du service réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris.
Il y a d'abord l'impact psychologique qui sera dissuasif malgré tout pour organiser des rassemblements ou des réunion familiale ou entre amis. Et deuxièmement, évidemment, en pratique, lorsqu'on en avance le couvre-feu, les personnes n'ont pas beaucoup le choix qu'une fois le travail terminé, de rentrer chez eux. Donc ce sont des mesures efficaces. Scientifiquement parlant, il n'y a pas de données qui disent qu'un couvre-feu fait moins bien qu'un confinement un peu plus strict.
D'autant qu'il ne faut pas sous-estimer l'exaspération des Français qui vivraient difficilement un troisième confinement, même localisé. C'est pour toutes ces raisons que l'exécutif préfère avancer de 2 heures le couvre-feu déjà en place. C'est efficace pour ralentir l'épidémie, ce sera mieux perçu et donc mieux respecté.
Très bien, Gatlandais. Alors pour aller plus loin, Frédéric Valtoux est avec nous, c'est le maire de Fontainebleau et président de la Fédération hospitalière de France. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour.
Votre action justement sur l'importance de ces 2 heures de plus aujourd'hui de confinement.
Je pense que c'est une bonne mesure parce qu'effectivement on voit que dans certaines régions le virus circule encore beaucoup trop fortement. Et comme l'a dit le médecin que vous avez interrogé à présent et votre journaliste aussi, il faut limiter les interactions sociales au maximum et éviter autant que possible un reconfinement, un troisième reconfinement dont on sait que voilà, il fait mal à l'économie, il est pesant sur le plan social et humain, mais néanmoins, toutes les mesures de restriction sont aujourd'hui nécessaires, surtout dans les régions où le virus repart.
On s'attendait plutôt à un reconfinement local, hein. On le voit même sur notre sondage du jour, 51% des gens pensent que ces mesures seront utiles, bien sûr, mais on s'attendait plus à un reconfinement région par région, comme en Mayenne pendant cet été, par exemple.
Oui, c'était une option qui est possible, mais c'est peut-être une option qui n'est pas à exclure. Quoi qu'il arrive, on le voit depuis le début, mais ce qui se passe en France se passe dans tous les pays. Je ne vais pas dire qu'on tâtonne, mais en tout cas, personne n'a le mistigris qui permet de savoir avec certitude quelle est la mesure qui permettra de... Et donc, on essaye de trouver des mesures adaptées, ajustées, qui concilient effectivement les contraintes sanitaires, mais aussi le reste, notamment la vie sociale, la vie économique, et qui doit être prise en compte. Et il n'est pas dit que si jamais ce couvre-feu avancé ne suffit pas ou ne donne pas des résultats dans les 15 jours qui suivent, eh bien on ne doive pas aller dans vers des mesures plus strictes, c'est-à-dire peut-être un reconfinement localisé là où le virus circule le plus.
Oui, il est urgent d'attendre, comme le disait un petit peu Olivier Véran hier dans ses propos sur les lits, à demi-mot. Et c'est vrai qu'on peut se penser aujourd'hui qu'on va peut-être mieux cerner la population en la faisant rentrer un peu plus tôt à la maison. Ça veut dire qu'à 20h, il n'y aura vraiment plus personne dans les rues.
Il faut souhaiter que les gens comprennent le sens de la mesure. Il faut faire appel à la responsabilité individuelle de chacun pour comprendre que on n'est pas dans des restrictions de liberté par principe et par volonté. On est dans la préservation autant que possible vers des conditions sanitaires, dans la sécurité sanitaire, et qu'à partir de là, on demande à chacun de respecter les mesures et de pas jouer au chat à la souris, à essayer de les esquiver pour derrière risquer effectivement de faciliter la transmission du virus.
Plusieurs maires, évidemment aujourd'hui, qui sont peut-être plus concernés que vous, hein, qui sont dans des régions où il y a vraiment une recrudescence de l'épidémie en ce moment, on pense à la région du Grand Est ou encore la mairie d'Antibes, où Jean Leonetti dit tout simplement que lui, il annonce sa déception, on espérait une accélération aussi, en plus de la vaccination, on va y revenir ensemble, mais il espérait peut-être une mesure plus locale, au moins pendant 15 jours, 3 semaines, que ce soit efficace.
Oui, mais bon, il faut poser la question à Olivier Véran directement, mais je pense que le gouvernement a en tête que si jamais les mesures qui sont prises ne donnent pas les résultats escomptés, il faudra de toute façon, et moi je le souhaite, aller vers des restrictions plus fortes. Il faut quand même pas perdre de vue qu'aujourd'hui les niveaux de prise en charge à l'hôpital restent très élevés, que les lignes hospitalières restent très sollicitées, que ça va bientôt faire 1 an que les hôpitaux sont en plan blanc et dans certaines régions sont allés de crise en crise. Et vous avez cité Grand Est tout à l'heure. On se souvient qu'en février-mars, c'était par le Grand Est qu'a démarré la première vague en France et ces hôpitaux-là...
Avec les hôpitaux militaires en plus qui est arrivé,
oui, bien sûr. Sont très sollicités avec des personnels qui, je ne vais pas dire sont sur les genoux, mais pas loin, parce qu'ils sont dans des situations de tension qui durent, et autant une crise qui dure quelques semaines, on peut y faire face, autant une crise qui dure quelques mois, voire près d'un an maintenant, oui. C'est plus compliqué.
Mais Frédéric Valtoux, vous avez une double casquette, vous êtes maire d'une ville comme Fontainebleau, vous êtes président de la Fédération hospitalière, et vous le dites, on est toujours dans une zone rouge en ce qui concerne le secteur hospitalier. Il ne faut pas prendre des mesures drastiques une bonne fois pour toutes, se dire, allez, on ferme tout pendant 15 jours, plutôt d'avancer, je le disais, à pas compter un petit peu. Hein.
Mais ces mesures drastiques vont peut-être arriver. Ces mesures drastiques vont peut-être arriver lorsqu'on verra ce qu'on ne voit pas encore, quels sont les chiffres post-Noël, post 31 décembre, c'est-à-dire post-vacances de fin d'année. Mi-janvier, on verra ce qu'a donné cette période-là. Et si on assiste vraiment, ce que je ne souhaite pas, mais si on assiste à un redémarrage assez fort des chiffres et de l'épidémie, dans ces cas-là, vers la mi-janvier, il faudra certainement se poser la question d'un reconfinement beaucoup plus fort, qui ressemblera peut-être même plus à ce qui a été le premier confinement à celui du mois d'octobre-novembre.
Pour être complet, Frédéric Valletoux, vous faites partie de ces maires qui ont signé un manifeste dans le Figaro et qui s'engagent à se faire vacciner au plus vite pour convaincre les Français d'en faire autant. Visiblement, on n'a pas envie de confondre vitesse et précipitation selon le ministre de la Santé. C'est lent quand même chez nous en France, tous ces vaccins qui arrivent.
Oui, c'est lent et je pense qu'il faudra que le gouvernement, le ministre de la Santé, soit plus clair, plus pédagogue vis-à-vis des Français, expliquer pourquoi ce choix, pourquoi en France on voit finalement le nombre de vaccinés augmenter si peu, si lentement, alors que dans des pays voisins, on est parti pour des campagnes qui sont tout de suite plus massives. C'est vrai qu'il a sans doute manqué encore un discours de la pédagogie. Néanmoins, si moi j'ai rejoint cet appel, c'est pour essayer d'emmener et de convaincre ces Français qui hésitent, qui sont trop nombreux, très nombreux. C'est normal de se poser la question avant de se faire vacciner. C'est normal d'aller poser la question à son médecin de qu'est-ce que c'est que ce vaccin. C'est normal peut-être de lire l'avis de la Haute Autorité de Santé, même si c'est de la littérature qui n'est pas simple à lire, mais en tout cas de prendre ses précautions et de prendre ses renseignements avant de se vacciner. Ce qui n'est pas normal, c'est de rejeter a priori effectivement ce vaccin. Donc cet appel des maires, c'est de dire dans notre démocratie, le maire reste un élu de confiance, en tout cas c'est ce que nous disent les enquêtes d'opinion et on le croit parce que dans nos villes, tous les jours on vit ce lien de confiance avec la population. Montrons l'exemple, c'est pas ça qui fera
passer
les Français vers le vaccin, mais c'est effectivement pour montrer l'exemple.
Ce que fait votre collègue de Nice, Christian Estrosi aujourd'hui, qui a annoncé, puisqu'il a reçu dans la nuit les premiers vaccins, et il a annoncé qu'on allait très rapidement maintenant vacciner toute sa population niçoise. Merci à vous Frédéric Valletoux d'avoir témoigné. Je rappelle que vous êtes le maire de Fontainebleau, également président de la Fédération Hospitalière de France. Merci d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Demain, 31 décembre, pour passer évidemment de 2020, drôle d'année 2020 à 2021, sachez que 100 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. C'est une confirmation hier donnée par le ministère de l'Intérieur. Et la surveillance, attention, commence ce soir. Une pause dans un instant, justement, on va parler des conséquences. On a parlé de l'aspect sanitaire, cette fois on va parler des conséquences économiques. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi
avec Christophe Paco.
2 heures de couvre-feu en plus, donc dans 20 départements dès ce samedi. On vient d'évoquer l'aspect sanitaire, le côté pratique également, pour ceux qui préparent leurs enfants à rentrer à l'école lundi prochain. Puis pour certains commerces, on imagine que ça risque à nouveau de grincer. Quant au secteur qui pensait reprendre leurs activités dès le 7 janvier, ça devient un peu plus compliqué. En clair, quand on écoute le ministre de la Santé, Olivier Véran, il est urgent d'attendre, on le disait. Christophe Ponzio, bonjour.
Bonjour.
Et on pense en premier lieu, bien sûr, au secteur de la culture.
Oui, salle de cinéma, de théâtre, de spectacle ou musée, pas de réouverture immédiate à la rentrée. La ministre de la Culture avait déjà prévenu, d'ailleurs avant Noël, le 7 janvier n'est qu'une date de revoyure, autrement dit un point d'étape sur la situation sanitaire. Le secteur s'attend davantage en fait à des réouvertures autour du 20 janvier, peut-être comme pour les restaurants, mais 15 jours après avoir manifesté dans la rue, il demande toujours à avoir des échéances claires, avoir 2 ou 3 semaines pour se préparer et anticiper le retour du public. La nouveauté avec le couvre-feu avant cette 2 heures dans les zones les plus touchées, c'est que le gouvernement fait preuve de discernement, estime un professionnel. Ainsi, retourner dans les salles obscures ou à une exposition pourrait être possible en janvier, mais à la carte du sur-mesure, selon le département où vous vous trouvez. L'obsession du gouvernement reste 1. Éviter le brassage de population et 2. Ne pas rouvrir théâtre ou musée pour refermer 15 jours plus tard. Les discussions avec le secteur de la culture doivent se poursuivre d'ici à la fin de la semaine.
Oui, on parle de justice évidemment entre les départements également, Christophe Ponzio. Et pour ceux qui aiment les sports d'hiver, on avait également parlé, on s'en souvient, d'une possibilité de réouverture des remontées mécaniques dès le 7 janvier, au lieu du fameux 20 janvier initialement annoncé. Là aussi, on a le sentiment que l'horizon s'obscurcit.
Oui, le ministre de la Santé estime que les autorités ont besoin en effet de voir l'effet de Noël et du Nouvel An sur l'épidémie, avoir une semaine de recul pour prendre une décision pour la montagne. Par exemple, les Hautes-Alpes ou le Jura figurent dans la liste des 20 départements les plus touchés par le virus. Là encore, il pourrait y avoir aussi des différences selon les zones. Reste que la saison des sports d'hiver est déjà très large. totalement amputée puisque les vacances de Noël en ce moment représentent un quart des 10 milliards d'euros du chiffre d'affaires des stations de ski françaises.
Et en plus, il y a la neige et elle est très bonne, paraît-il. Merci à vous, Christophe Ponzio, au service économique et social d'RTL. La France, au dernier recensement, nous sommes au total 66 730 000 habitants dans notre beau pays, selon l'INSEE. Les grandes métropoles attirent toujours autant de monde, voire plus de monde. Mais attention, plusieurs départements à nos touches voient depuis 5 ans leur population baisser.
Oui, ils sont 20 dans ce cas, alors qu'ils n'étaient que 11 entre 2008 et 2013. L'une des plus fortes chutes est d'ailleurs observée à Paris. La capitale perdait chaque année 0,5% de ses habitants entre 2013 et 2018, alors qu'elle en gagnait 0,2% par an avant cette période. Les autres baisses s'observent beaucoup dans le nord-est du pays, dans les Ardennes, la Meuse, les Vosges ou encore la Haute-Marne, mais aussi dans l'Indre, la Creuse ou encore dans l'Orne. Mais il y a aussi les départements qui gagnent des habitants. C'est par exemple le cas de la Gironde, l'Hérault ou encore la Haute-Savoie. Cela s'explique aussi car beaucoup de Français s'installent dans les grandes métropoles. Et là aussi, l'INSEE a pu le mesurer. Les grandes aires urbaines, c'est-à-dire celles de plus de 700 000 habitants, séduisent depuis plus de 10 ans. Par exemple, la partie française de Genève-Annemasse gagne 1,8%, plus 1,4% à Nantes, Montpellier et Bordeaux. Toulouse et Rennes sont toujours très attractives aussi. Mais attention, plus la ville est petite, plus elle perd des habitants. Les Français continuent donc à privilégier les grandes métropoles.
Arnaud Touche, 12h48, c'est RTL Midi que vous écoutez, vous avez bien raison. Un étrange décès dans le quartier de la Mosson à Montpellier. Un jeune homme de 29 ans a été retrouvé mort par balle hier soir dans son appartement. Mais les enquêteurs ne sont pas convaincus par la thèse du suicide avancée par la famille. Sa compagne et le père de celle-ci sont en garde à vue, Thomas Proutot.
Absolument, les policiers doutent de la version donnée par ces deux témoins capitaux. Lorsque les pompiers arrivent chez le jeune homme, hier vers 20h30, ils le trouvent grièvement blessé. C'est au cou, par balle. Une réanimation est tentée, mais il est déjà trop tard. Dans l'appartement, sa compagne et son père sont présents. Ils expliquent que la victime s'est donné la mort en leur présence avec sa propre arme à feu après une violente dispute. Mais deux constatations arrêtent les enquêteurs. D'abord, le corps semble avoir été déplacé. Autre problème, l'arme a disparu. C'est le père de la compagne qui la rapportera finalement aux policiers dans la nuit. D'après le parquet de Montpellier, les deux témoins maintiennent ce matin leur version, le suicide après la dispute. Mais rien à cette heure ne permet d'infirmer ou de confirmer les faits.
Thomas Proutot, merci à vous, chef du service police-justice d'RTL. Dans un instant, on part à l'étranger et une grande première en Amérique du Sud. Le Congrès argentin a adopté cette nuit la loi légalisant l'avortement après de longues heures de débat.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christophe Paco.
Et cette grande première donc en Amérique du Sud, le Congrès argentin qui a adopté la loi légalisant l'avortement après plus de 12 heures de débat. Un succès d'importance salué comme il se doit par les partisans du oui, Flora Genoux.
Ces cris de joie, ce sont ceux des militantes féministes. Il est 4h du matin et elles ont regardé les 12 heures de débat des sénateurs dans la chaleur de l'été austral. À l'annonce de la légalisation de l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse sans condition, beaucoup pleurent d'émotion comme Malena, 21 ans, qui sanglote dans les bras d'une amie.
Je n'arrive pas à le croire, c'est trop historique. Je n'arrive pas à croire que je suis témoin de ce moment-là. Moi, j'ai dû avorter, mais j'ai eu les moyens de payer. Maintenant, ça va être possible pour tout le monde.
Il y a 2 ans, le texte avait été rejeté par le Sénat après des débats historiques au Parlement. La grande différence cette année, pour la première fois, le projet était porté par le président. Luciana, 16 ans.
On pleure d'émotion, c'est fou, surtout pour nous, notre génération. Savoir quel avenir on va pouvoir disposer de notre corps. On gagne un droit, c'est fou.
En Argentine, l'avortement n'était permis qu'en cas de viol ou de danger pour la vie ou la santé de la personne enceinte. Chaque année, 38 000 femmes étaient hospitalisées après des avortements réalisés dans des mauvaises conditions.
Flora Genoux, correspondante d'RTL à Buenos Aires pour RTL. Direction l'Angleterre en cette période de Covid-19 et les dirigeants qui passent à la vitesse supérieure, ils ont validé leur vaccin AstraZeneca, développé notamment par des universitaires d'Oxford. Il est moins cher, il est plus simple à conserver. Pas d'autorisation prévue pour le mois de janvier en revanche au sein de l'Union Européenne. Avant dernière étape, vous le savez, avant le départ du Royaume-Uni de l'Union Européenne, les dirigeants justement de l'Union ont paraffé le texte ce matin qui doit désormais être signé par Boris Johnson avant la date fatidique. la date prévue de la séparation demain, 31 décembre. Conséquence du Brexit en France avec la Dordogne, département français qui compte, on le sait, le plus de Britanniques. 8000 ressortissants ont jusqu'au 31 juin maintenant pour demander un titre de transport et de séjour. D'habitude, la préfecture de Dordogne ne reçoit que 2000 demandes de titre de séjour. Les services de l'État ont donc installé un bureau spécial, le bureau Brexit tout simplement, à Périgueux, qui reçoit près de 80 personnes chaque jour, Juliette Chaignon.
À l'entrée du bureau, les Britanniques se séparent de leur carte européenne de séjour et viennent déposer un nouveau formulaire.
Je vais prendre le passeport et la photo, s'il vous plaît.
Vous allez avoir un titre permanent.
Ce titre est valable 10 ans et s'obtient par une procédure simplifiée. Linda s'attendait à des démarches plus compliquées.
C'est très facile et ça va très bien.
Comme elle, près de 8000 Britanniques ne se voient pas vivre ailleurs qu'en Dordogne.
J'habite dans un petit village. Je peux imaginer rester en France pendant des années, le reste de ma vie.
Certains, comme Steve et sa femme, craignent tout de même que le Brexit complique les visites de leur famille anglaise.
Brexit, c'est un grand problème pour nous. Nous restons ici. D'autres familles, peut-être, ils visitaient. Peut-être.
Pour traiter les demandes des Britanniques, la préfecture a embauché 5 vacataires. Anne-Sophie Larue dirige le service des migrations.
On s'attend à un chiffre entre 8000 et 10 000. Les gens ne partent pas de France pour rejoindre le Royaume-Uni après ce Brexit, mais en fait, ont tendance à arriver.
Linda et Steve devraient recevoir leur carte d'ici fin janvier et Linda compte bien fêter ça avec un post sur les réseaux sociaux et une coupe de champagne.
Juliette Chaignon pour RTL. Mon beau sapin, roi des forêts. Non, je ne vais pas chanter. À 39 ans, l'éternel Zlatan Ibrahimovic est toujours au sommet de son art. Le footballeur est toujours en tête du championnat italien avec son club, l'AC Milan, et sur le podium des meilleurs buteurs en plus de Serie A. Et pour Noël, le géant suédois, fidèle à lui-même, n'a pas fait dans la demi-mesure, Baptiste Durieux, puisque Zlatan s'est offert une forêt, tout simplement, de 10 000 hectares à l'ouest de la Suède, non loin de la frontière avec la Norvège. Et ce, Baptiste, pour la bagatelle tout de même de 3 millions d'euros.
Il fallait au moins ça pour le géant suédois, une forêt à lui tout seul, un parc privé, un terrain de jeu pour assouvir en toute tranquillité ses envies de nature, de montagne, de chasse et de pêche. Un vaste domaine boisé dans lequel il n'aura absolument aucun problème pour réaliser des pointes de vitesse au volant de son scooter des neiges. Johanna Fronden est une journaliste suédoise qui a suivi Zlatan depuis ses débuts.
Tout ce qui est adrénaline, les conditions extrêmes, le froid, enfin, ça gèle, la neige tombe. On est seul aussi quand il était plus jeune. Parfois, il roulait très très vite en voiture. C'est son côté un peu compétitif. C'est aussi un peu le signe d'un grand macho, mal alpha. Un peu qui va à la chasse. Ça va bien avec sa personnalité.
Être chasseur et être footballeur, deux choses compatibles pour Zlatan. Quand il portait les couleurs du Paris Saint-Germain, il n'a pas seulement visité les stades de Ligue 1.
Quand il était à Paris, parfois il descendait vers Bordeaux, Poitiers, où il partait à la chasse dès qu'il avait un moment.
Et ce n'est pas la première fois qu'Ibrahimovic sort son carnet de chèques pour satisfaire ses besoins d'espace. Il est déjà l'heureux propriétaire d'une île à côté de la capitale, Stockholm.
Le grand Baptiste Durieux, géant lui aussi, au service des sports d'RTL. Il est midi 55.
RTL, une affaire de famille.
Une affaire de famille. Et direction ce midi, le port de Boulogne-sur-Mer, dans une pâtisserie, la Maison Beaucourt, où ses artisans préparent des gourmandises pour ces grandes fêtes qui sont toujours là, bien présentes chez nous, et ce depuis 3 générations. La boutique est ouverte donc depuis plus de 40 ans maintenant. Et aujourd'hui, le petit-fils a pris le relais des grands-parents et le chanceux Frank Hansen a pu assister à la préparation des fameuses bûches et autres gâteaux de fête.
C'est à l'étage de la pâtisserie qu'Adrien Beaucourt prépare ses gourmandises de fête. Des bûches de Noël, crème au beurre, mais aussi des desserts plus élaborés.
Là, je vais venir les enrober de crème au beurre chocolat.
Une bonne génoise, c'est le plus important. Puis ensuite, une bonne crème au beurre. Après, c'est riche, c'est des produits avec beaucoup de sucre, beaucoup de beurre, mais bon, c'est ce que les gens ils aiment bien aussi. C'est pour ça qu'aussi maintenant, on essaye de plus partir sur des crémeux, des confits, des mousses. On garde quand même les traditionnels de la famille. Quoi.
Même si on fait des bonnes bûches, les gens, les anciens reviennent toujours sur la bûche crème au beurre. Café, j'adore.
À ses côtés, Marie-France, la grand-mère, valide les recettes. Avec son mari, elle a ouvert la boutique en 1973 dans ce quartier du Chemin Vert.
C'est nous qui avons monté et puis après, c'est les enfants qui ont repris. Puis maintenant, c'est les petits-enfants. Ah, moi, je suis fière. Hein. J'apprécie qu'ils font le métier. Hein. On est à la troisième génération. Hein. Il a fallu faire nos preuves. Bertrand, son père, a refait le nouveau magasin.
Travail de nuit, il est en boulangerie.
À 25 ans, Adrien a logiquement pris la succession dans l'entreprise familiale, tout en développant sa touche personnelle après des études à l'Institut de la pâtisserie d'Alain Ducasse.
En étant ici, j'étais bien, j'avais un confort après, mais je voulais aussi voir d'autres choses. Aujourd'hui, je suis revenu avec des recettes, de l'expérience, donc j'essaye d'apprendre ce que j'ai appris là-bas maintenant à mon équipe. On a des spécialités qu'on fait que pendant les fêtes, c'est par exemple les pâtes soufflées de Saint-Nicolas. Ça, les gens, ils en raffolent. C'est le plum pudding anglais.
chocolat.
Il a commencé à se faire un nom d'ailleurs avec un Paris-Boulogne.
Alors le Paris-Boulogne, c'est un biscuit pain de jeune chocolat à base de pâte d'amande 50%. À l'intérieur, il y a un crumble. Ensuite, au-dessus, il y a une mousse chocolat onctueuse au lait et avec un caramel passion.
Alexis, son cousin, est aussi logiquement tombé dans cette marmite plus jeune et perpétue la tradition.
Moi, je suis sur la pâtisserie du côté d'Outreau et le Portel. Il y a beaucoup de travail, mais on essaye toujours de garder quand même un esprit familial. On essaye de baisser le taux de sucre, tout ça dans les gâteaux pour que les gens, bah, comme il disait, que ce soit pas trop lourd à la fin du repas. C'était comme Adrien, j'ai été élevé par mes grands-parents étant petit. Je venais dans le laboratoire, je venais voir travailler les pâtissiers. J'étais pas trop scolaire à l'école, j'étais plus manuel, j'ai préféré partir sur ça.
Quand ça va pas, je le dis, mais c'est toujours bien, alors il n'y a rien à dire. Parce que je suis testeuse. Hein. Ah ouais. Tous les lundis, j'ai mes deux petits bobos. Hein.
Pour les fêtes, ces jeunes pâtissiers boulonnais nous régalent avec des desserts glacés et d'autres spécialités.
Ouais, ça, c'est toutes les bûches qu'Adrien il a fait.
En fait, j'ai fait sur un thème, c'était les bûches de Noël autour du monde. Du coup, j'ai voulu, vu que les gens ne peuvent pas voyager cette année avec le Covid, donc j'ai voulu faire un peu voyager. Donc en fait, j'ai fait une partie genre Shanghai, donc avec un insert riolet, un crémeux yuzu, et ensuite la Rio et la New York avec le cheesecake. Américain.
Adrien, comme Alexis, n'oublie pas d'où ils viennent, toujours reconnaissant envers la famille.
Sans eux, ben, on serait pas dans la pâtisserie de ça, on leur doit beaucoup quand même. Nos grands-parents, ouais.
C'est... Puis est-ce qu'on aurait eu le culot qu'ils ont eu de fonder une boutique ici alors qu'il n'y avait rien? Puis en plus, il y avait deux grandes surfaces quand même à côté, c'est vrai que non, c'était un défi.
Ils aiment ce qu'ils font et jamais ils se découragent, ils sont toujours au contraire, ils vont toujours essayer d'aller de l'avant.
Sur les boîtes de gâteaux à la pâtisserie Beaucourt, c'est une photo du grand-père enfant, comme s'il veillait toujours sur cette petite entreprise et ses douceurs sucrées.
Merci Franck. Franck, on va comme donner l'adresse à Patricie Beaucourt, c'est rue du Chemin Vert à Boulogne-sur-Mer. La météo justement, quelle température à Boulogne-sur-Mer? La question piège du jour, Claire.
En ce moment, il fait 6 degrés à Boulogne-sur-Mer. Il fait froid et il y a aussi de la neige. Hein. L'hiver s'est installé, surtout à l'est du pays, entre Rhône-Alpes et les Ardennes. On pourra encore avoir localement un petit saupoudrage qui blanchira les sols mêlé à de la pluie à partir de 300 mètres. Mais cette journée, elle reste relativement calme par rapport à ce début de semaine, avec encore beaucoup de nuages dans l'ensemble, mais aussi l'apparition de quelques éclaircies du Limousin vers les Hauts-de-France. Et puis, les averses vont également faiblir dans le sud-ouest, mais une situation qui reste à surveiller hein, concernant le risque de crue. Je rappelle que 4 départements sont toujours maintenus en vigilance orange par Météo France. Mais on aura également aussi un risque d'avalanche, que ce soit en direction du Massif central, des Pyrénées, mais aussi des Vosges. Enfin, mis à part la Corse, hein, qui sera encore sous le signe de l'instabilité, la Méditerranée profitera de belles éclaircies, mais toujours accompagnées de ce vent fort. Et c'est une accalmie dont il faudra profiter, car dès ce soir, fin d'après-midi, une nouvelle perturbation va arriver par l'ouest du pays.
Claire Delhomme, vous restez avec nous, parce que juste après le flash de 13h, on aura les températures, enfin non, la tendance au moins pour la dernière soirée de l'année 2020. Parfait. On n'a pas le droit de sortir, vous le savez, mais quand même, on regardera le temps qu'il fait dehors ensemble.
RTL.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole. Christophe Pacaud sur RTL.
Et juste avant de vous retrouver, sur le 32-10-3-2-1-0, notamment Françoise et Laurent sont déjà là pour parler du couvre-feu, on l'imagine, parler peut-être de la mort de Pierre Cardin, parler de la météo. C'est vous qui choisissez vos thèmes, évidemment. 32-10-3-2-1-0. On rappelle les principaux titres de l'actualité, comme tous les jours à 13h. Pas de reconfinement, mais un couvre-feu avancé de 2h, c'est-à-dire à 18h, dans une grande partie de l'est du pays. Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, région Auvergne-Rhône-Alpes et département des Alpes-Maritimes. Ce sont au total 20 départements qui sont visés. Cette mesure va débuter samedi à 2 jours de la rentrée des classes. Et vous, qu'en pensez-vous? Jugez-vous utile ces mesures? Les couvre-feux locaux, vous dites oui à 51% pour l'instant et non à 39% sur le site rtl.fr. Et puis des voix qui s'élèvent à droite, au centre et à gauche pour critiquer la lenteur du début chez nous de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Stratégie toutefois, on l'a bien entendu hier avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, assumée par le gouvernement. Le Royaume-Uni est devenu le premier pays à donner son feu vert aujourd'hui au vaccin AstraZeneca, l'autre pour l'instant vaccin qui arrive sur le marché. Ça donne un petit coup de fouet à cette campagne de vaccination pour l'instant outre-Manche, comme dans d'autres pays européens, en Angleterre comme en Allemagne. Et évidemment, le nombre de décès a augmenté. Par exemple, en Allemagne, on est à plus de 1000 décès au quotidien aujourd'hui. À la veille de la sortie du Royaume-Uni du marché unique européen, les dirigeants de l'Union ont signé ce matin l'accord post-Brexit. Il ne reste plus qu'à le ratifier par Boris Johnson aujourd'hui. par Boris Johnson, pardon. La fréquentation des cinémas en France, fermés ou obligés de réduire leur capacité, une bonne partie de l'année a chuté de 69% en 2020. Et on compte bien sûr les trois premiers mois, à peu près deux mois et demi, janvier, février jusqu'au 16 mars, et puis quelques bribes de cinéma pendant l'été. C'est compliqué pour le cinéma qui fête cette semaine ses 125 ans. Le nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus à Wuhan, berceau de la pandémie, serait 10 fois supérieur au bilan annoncé jusqu'ici par Pékin, selon une étude d'un centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies. Le Vendée Globe, on s'apprête à fêter évidemment sur la mer avec les marins la fin d'année, la Saint-Sylvestre, le passage de 2021. C'est Yannick Bestaven qui est toujours en tête à l'approche du Cap Horn. Attention derrière lui, Charlie Danin se rapproche sur Happy Via. La météo chez nous, au-dessus de nos têtes, on a vu qu'aujourd'hui c'était froid, hiver, un petit peu de neige. Vous avez saupoudré, comme l'avait dit Claire Delorme. Demain, on sort pas, mais quand même, quel temps aurons-nous ?
Alors accrochez-vous Christophe, ce sera très original. Il y aura du froid et de la neige. Puisqu'en effet, la perturbation qui va arriver donc dans le courant de la soirée va glisser, va s'étendre vers les régions de l'Est dans la journée de demain et pourra apporter encore de la pluie mêlée à de la neige sur les régions de l'Est allant de la région Rhône-Alpes en direction du Grand Est. Donc de la neige qui va tenir en plaine à partir de 300 mètres alors qu'à l'arrière on aura une petite amélioration avec tout de même encore des averses côtières qui pourra accentuer le ressenti de froid. Et puis la Méditerranée qui pour une fois aura un ciel beaucoup plus variable.
Ça, c'est rare,
des nuages, quelques timides éclaircies, mais aussi des averses, hein, pas
de
jaloux.
Merci mille fois Claire Delorme pour la météo. Si vous voulez nous parler de votre météo, si ça coince encore chez vous, 3210 3210 et des couvre-feux locaux, c'est maintenant 3210 3210, c'est le standard d'RTL.
2020, quand le sport reste essentiel, RTL avec les étoiles du sport.
Et comme tous les jours, on revient sur cette drôle d'année 2020 pour nos champions, avec des championnats arrêtés, des Jeux Olympiques qui sont reportés. Les athlètes de niveau qui ont donc dû s'adapter. Isabelle Langer est allée à la rencontre des plus grands champions français. Ils reviennent sur cette année 2020, assez spéciale, mais aussi sur leurs engagements citoyens. Aujourd'hui, c'est Renaud Lavillenie, champion olympique du saut à la perche en 2012 à Londres, qui est aux côtés d'Isabelle Langer.
Bonjour Renaud Lavillenie.
Bonjour.
Renaud, l'année 2020 a été vraiment spéciale avec cette pandémie, ce report des Jeux. D'abord, le confinement pendant 2 mois. Vous l'avez plutôt bien vécu avec les petites vidéos que vous postiez sur les réseaux sociaux.
Ouais, c'était plutôt, je dirais pas agréable, mais en tout cas, je dirais que je m'en suis bien sorti. J'ai la chance d'avoir une maison, d'avoir un cadre de vie qui est quand même plutôt cool. Et puis le petit atout avec le sautoir à la maison fait que j'ai pu pratiquer mon sport. J'ai pu aussi passer pas mal de temps avec ma fille et ma femme à une période où d'habitude on bouge pas mal en stage et donc ça a permis de passer le temps, donc ça s'est plutôt bien passé. On a eu en plus la chance d'avoir une météo quand même qui était assez cool, donc ça nous a bien aidé quoi.
Et faire des concours à distance par visio, c'était sympa aussi ?
C'était très très sympa. Et mine de rien, il y avait la même pression, la même émulation que si ça avait été un vrai concours en direct au même endroit. On sentait qu'on avait quand même ce besoin de faire quelque chose et puis de se retrouver. Parce que voilà, on a quand même passé pas mal de temps où on voyait pas grand monde. Donc même si c'était via les écrans, ça faisait quand même du bien. Et puis quand on est compétiteur dans l'âme, au bout d'un moment, ça nous manque quand même de pas avoir de challenge. Donc là, c'en était un qui était vraiment super sympa, quoi.
Est-ce que finalement, le seul point noir de cette année 2020, c'est pas ce gamin, Armand Duplantis, qui vous a chippé votre record du monde ?
Non, parce que quoi qu'il arrive, je dirais pas que j'étais résigné, mais je savais qu'un jour ou l'autre, il allait le battre, parce que voilà, c'était celui qui avait le plus de potentiel, le plus de qualité. Quand on fait 6m05 à 18 ans, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas titiller les 6m20 quelques années plus tard. Donc ça faisait partie du jeu. Et puis voilà, je pense qu'aussi j'ai eu la chance de m'entendre très très bien avec mon dos, et puis j'ai eu la chance d'avoir eu le record pendant 6 ans. Et voilà, les records sont faits pour être battus, donc ça m'enlèvera en rien des médailles, des records que j'ai pu faire. Mais la discipline avance, évolue, et c'est tout bon pour nous, quoi.
Et justement, à propos de médailles, il y a une troisième médaille à aller chercher aux Jeux Olympiques en 2021.
Ah bah oui, bien sûr, c'est clairement l'objectif. Cet été, mine de rien, avec beaucoup moins de préparation que d'habitude, je me suis rendu compte que j'avais encore la capacité d'être compétiteur. Et donc je pense que j'essaye de faire en sorte cet hiver de vraiment tout remettre d'aplomb pour aller. Je vais pas vendre du rêve en disant que je vais aller chercher le titre olympique coûte que coûte, parce que je sais que ça va être compliqué, mais je sais que j'ai les moyens d'aller monter sur le podium, parce que j'ai cette expérience, j'ai la capacité de vraiment me transcender dans les grands moments, tout en sachant que une médaille, ça ne joue à rien, ça peut jouer à un essai. Mais en tout cas, c'est clairement l'objectif.
objectif d'aller chercher une troisième médaille olympique cet été au Japon.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021 ?
La santé, ne pas être blessé. Je pense que si je ne suis pas blessé, je me ferai plaisir et je serai capable de sauter haut. Donc ça résoudra beaucoup de problèmes, on va dire.
Très superbe. Le Grand Paris de Renaud Lavillenie aux côtés d'Isabelle Langer. Chronique à retrouver sans modération sur notre site internet rtl.fr. Les auditeurs ont la parole. C'est à vous dans une minute. Françoise, Laurence sont déjà là. On va parler de couvre-feu. Couvre-feu locaux, jugez-vous utiles ces mesures? Vous dites oui pour l'instant 50% sur le site rtl.fr et non à 42%. Dans une minute, c'est à vous.
Les auditeurs ont la parole. Christophe Pacaud sur RTL.